Alors, avant d'attaquer votre actualité, et donc un peu que tu nous parles plus en détail de Toward the Throne, est-ce que tu pourrais nous parler de toi et en particulier ton parcours artistique jusqu'à présent?
Ok, alors moi je m'appelle Jérémy, je suis guitariste du groupe. Mon parcours artistique, concrètement, moi j'ai commencé, on va dire, dès mon plus jeune âge à écouter du métal à travers les goûts musicaux de mes parents, notamment de mon père qui écoutait des Axel Rudi Pell et autres Sonata Arctica depuis fort longtemps. Et aux alentours de mes 12-13 ans, j'ai commencé la guitare, et donc forcément, en creusant un petit peu l'univers de la guitare métal, je me suis très vite intéressé à des groupes comme Children of Bodom, pour ne citer que, où on arrive sur des choses death metal qui deviennent assez techniques avec des solos de guitare. Et donc j'ai commencé comme ça, et c'est un petit peu cette veine death metal scandinave qui a marqué, je dirais, tous les membres du groupe et qui a marqué un petit peu les années, on va dire, 2000 jusqu'à 2010. Et entre 2010 et aujourd'hui, bah, c'est l'évolution, on va dire, des goûts, des styles, des productions aussi, qui font que aujourd'hui, je peux écouter du Lépousse, qui est beaucoup plus, je dirais, vaporeux, accessible aussi, et en même temps écouter ça peut être du Dark Fortress, ça peut être du Ginger en ce moment, qui est sur le devant de la scène avec leur death metal moderne hyper péchu, ou du Septic Flesh qui fait partie de mes influences de toujours, quoi.
D'accord. Métalleux sud de l'Alsace, concert nombreux à Pratteln?
Alors, à Pratteln, forcément, on y allait, enfin, moi déjà, mais les membres du groupe aussi, on y allait des dizaines de fois, je dirais, pour voir bah, notamment des groupes comme Septic Flesh, pour voir des groupes comme Arch Enemy à l'époque, Sonata Arctica, j'en ai parlé, et plein d'autres que je pourrais citer, quoi.
Bon, c'est vrai que pour les Alsaciens du Sud, c'est l'avantage, c'est que pour ceux qui ne connaîtraient pas, voilà, il y a Pratteln qui est en Suisse et qui est un gros centre, enfin suite en Suisse alémanique en plus, donc gros centre où il y a à peu près toutes les tournées métal qui passent.
Ouais, exactement.
Ok, on parle en plus donc au niveau de toi, ton instrument, donc tu disais intérêt assez rapide sur l'instrument. Quel a été un peu t'as des musiciens références ou t'as des techniciens références toujours
Alors,
présents?
bien sûr, j'avais parlé de Children of Bodom, je vais donc parler de Alexis Layo, qui a été une influence pendant une grosse partie de mon parcours musical, qui a été le premier, je dirais. Des musiciens que j'ai connus qui avaient un style, c'est-à-dire que quand le gars il joue de la guitare, on sait que c'est lui parce qu'il a une touche, il a une signature, il a quelque chose de différent. C'est pas juste un guitariste, c'est une marque de fabrique, quoi. Et après, si je dois citer d'autres groupes, enfin d'autres musiciens aussi, je citerai peut-être quelqu'un de moins connu qui s'appelle David Maksimicic, qui est guitariste et compositeur serbe, qui a travaillé dans des groupes comme Destiny Potato. Donc c'est pas très connu, mais c'est un musicien d'exception, un guitariste d'exception et surtout un compositeur incroyable qui m'a aussi beaucoup influencé on va dire, sur ces 5 dernières années, quoi.
D'accord. Tu joues sur quoi? Vous jouez sur des Jackson, non?
Pas du tout.
Pas du
Alors
tout.
moi, je
Ah bah.
suis 100% ESP.
D'accord.
J'ai eu beau aller, alors vu qu'on parle de l'Alsace proche Allemagne, on parle aussi de Thomann, plus gros distributeur de musique en Europe. J'ai eu beau aller sur place à Bürgerbach, en plein centre de l'Allemagne, pour aller dans le magasin de Thomann et tester des dizaines et des dizaines de guitares, j'en suis toujours revenu à ESP parce que c'est ce qui me procure le plus de confort. C'est les guitares qui sont, je trouve, hyper légères, qui sont à la fois à la pointe de la technologie, mais en même temps aussi bien faites pour la scène que pour du studio. Donc voilà, j'ai eu beau tester d'autres marques, j'en suis toujours revenu sur du ESP, quoi.
Il y a un modèle en particulier qui te plaît plus particulièrement sur USB?
Alors moi j'aime bien, c'est peut-être un peu classique, mais j'aime bien les formes Stratocaster de manière générale, on va dire. Chez ESP, il y a les modèles M, les modèles MH, les modèles Horizon. Donc moi je suis sur Horizon, donc une ESP E2 Horizon, hein, qui est sortie, je crois, 2017 ou 18, quelque chose comme ça.
Six
Et donc
cordes?
actuellement c'est la... Pardon?
Six cordes?
Six cordes, six cordes.
Ok.
Je me suis aventuré sur de la 7 cordes pour faire des essais, des choses comme ça, mais finalement... Pourquoi pas un jour peut-être, mais aujourd'hui, je trouve mon compte sur de la six cordes, quoi.
D'accord. Justement, toute la scène dite Madcore, je sais pas, Périphérie ou ce genre, ou des groupes ultra techniques qui aiment beaucoup les guitares 7, 8 cordes and co, c'est un truc qui t'intéresse un peu ou pas vraiment?
Alors moi, en tant que guitariste, comme je l'ai dit, j'y trouve mon compte sur la six cordes, mais j'écoute. Alors tu parles de Périphérie, oui, j'écoute plein de groupes comme Périphérie qui jouent sur des guitares 7 cordes. Après, c'est c'est propre à moi personnellement. Je sais que tout le monde ne partage pas ça dans le groupe, mais c'est aussi ce qui fait notre force. D'abord, on va dire des inspirations qui sont assez différentes. Mais oui, Périphérie, c'est aussi très juste Marigold avec le riff de guitare d'intro qui est incroyable. C'est des choses qui forcément à un moment donné ou à un autre ont un impact sur la musique qu'on fait, quoi.
D'accord, ok. Si on prend un peu donc les dernières années et puis un peu vos premiers débuts discographiques, vous sortez d'abord une première démo, puis en 2017 vous sortez un EP qui est Claiming the Sun, Bringing the Darkness. Si on prend cette période EP justement donc autour de 2017, est-ce qu'il y a un souvenir particulier qui pour toi synthétiserait cette époque du avis du groupe?
Alors, l'EP en 2017, c'était en fait vraiment en termes de maturité, on était à mi-chemin entre la démo, qui était, on va dire, qui traçait bien au début, qui était, on va dire, sur l'aspect death metal. Et aujourd'hui, Vox to Decla, on est plutôt sur quelque chose de death atmo. C'est quelque chose qu'on a, je vais pas dire moins travaillé, mais qu'on a travaillé différemment. Notre EP, on n'y a pas réfléchi de manière aussi globale que sur notre album. Donc je dirais que, pour résumer, je dirais que c'était un petit peu un passage obligé qui nous a permis aussi de nous rendre compte, après la sortie de l'EP, que oui, là, on était prêt pour l'album et que qui a fait, du coup, qu'on a sorti Vow to Decline et dont on est satisfait, quoi. C'est un peu on va dire une étape, quoi, une frontière à franchir, quoi.
D'accord. Une période enfin, assez longue entre 4 ans entre l'EP et l'album. C'est très lié à la crise sanitaire depuis un an et demi ou enfin, sans ça, ça serait le nouvel opus serait le premier album serait sorti beaucoup plus vite ou il vous fallait ce temps-là pour digérer et arriver à développer votre son?
Alors, c'est une bonne question, et effectivement, la crise sanitaire et la pandémie de manière générale n'a eu absolument jusqu'à aujourd'hui aucun impact. En fait, pour être totalement transparent avec toi, il y a des titres qui sont sur Vow to Decline, cet album qu'on sort la semaine prochaine, qui ont été composés déjà en 2017, et ces 4 ans ont été pleinement nécessaires pour mûrir certains morceaux. Donc, comme je l'ai dit, hein, qui ont parfois vécu 3 ans avant d'être pré-produits, pour mûrir la conception de l'album dans sa globalité. Et s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire, est-ce qu'on aurait sorti l'album plus tôt? On y aurait peut-être pensé, mais je pense qu'on l'aurait pas fait, parce qu'effectivement, je pense que ces 4 ans ont été nécessaires. Et aujourd'hui, finalement, on a pris le temps qu'il nous fallait, et quelque part, s'il nous avait fallu un an de plus, on l'aurait pris aussi, crise sanitaire ou pas.
D'accord. Quel est le processus de création d'un titre au sein du groupe? Vous avez mis en place une espèce d'habitude là-dessus? Comment ça se passe? L'un de vous arrive avec un riff ou quelque chose de structuré et puis les autres bossent dessus? Comment ça se passe?
On a chacun des rôles assez définis là-dessus. Au niveau de la composition, c'est soit Gauthier, donc qui est chanteur-bassiste, soit moi, qui composons un titre de notre côté à 80 voire 90%. Je prends un exemple, Oppose, le premier titre de l'album, c'est un titre que j'ai composé dans une veine un peu plus black, qui donc a été composé par mes soins, on va dire à 80-90%, et derrière, ce titre-là, il est présenté au groupe. À partir de ce moment-là, on en discute, on fait un petit brainstorming là-dessus, et Gauthier, qui a aussi des capacités de composition et qui, du coup, lui, a des goûts peut-être un peu différents des miens et surtout une vision de la musique différente de la mienne, va apporter finalement tout ce que moi, j'ai pas pu apporter. En fait, on est très complémentaires là-dessus, et vice-versa, sur des morceaux que lui, il va composer, moi, je vais apporter ma touche et ma vision de la musique. Donc, c'est un travail qui est hyper complémentaire, qui, même si les morceaux sont à 80% faits de manière individuelle, sont à la fin hyper collectifs, quoi.
D'accord. Mais ce que tu fournis aux autres, c'est une démo, donc avec, je suppose, sans chant.
Tout à fait. Alors, en fait, quand on compose, que ce soit Gauthier ou moi, hein, le morceau, il y a l'âme du morceau, la structure globale, l'idée, comment dire, l'émotion qu'on veut transmettre de manière globale. Donc ça c'est ce qui est fait en amont. Et après derrière, tout ce qui va être lyrics va être causé juste après. C'est pas que les lyrics sont, on va dire, moins importants, mais les lyrics vont être là pour servir le morceau et l'idée globale du morceau. Donc le plus important au départ, c'est l'idée globale.
D'accord, mais donc il y a une batterie témoin, mais qui sera modifiée, voilà, pour s'adapter à votre batteur. Il y a des propos, il y a des riffs, des propositions rythmiques ou
Alors,
et puis après ça se discute entre vous.
en fait, le morceau, quand il est présenté au groupe, il est vraiment très avancé. C'est-à-dire qu'il y a toute la batterie, il y a toutes les orchestrations, tous les riffs de guitare, il y a tout, sauf peut-être des détails ou des choses qui nécessitent d'avoir une deuxième paire d'oreilles, un deuxième esprit, quoi. Après, ça veut aussi dire que derrière, quand on fait la pré-production, quand on présente le morceau au groupe, bah, pour prendre l'exemple de la batterie, s'il y a un passage où il y a un tapis double, c'est parce que le morceau en a besoin. Donc mon batteur, il va pas retravailler ce tapis double. Par contre, il peut retravailler le choix de certaines cymbales, il peut retravailler certains roulements de batterie, justement pour les mettre à sa sauce, pour apporter aussi lui sa touche et son groove parfois aussi. Mais l'idée globale de la batterie, s'il y a du glace à un passage, quand on crée le morceau petit au moins, il y aura du glace à la fin du morceau, quoi.
D'accord, ok. Comment justement tu travailles ou quelle est ta réflexion pendant le moment que tu composes pour le partage entre guillemets, du travail entre vous deux, les deux guitaristes?
Alors concrètement, quand je compose, je me mets zéro limite. C'est-à-dire quel que soit le style, en fait, je me pose pas de question d'ailleurs. Est-ce que je vais faire un style particulier ou autre? Si je suis en train d'écouter du black, et eh ben mon morceau va s'en ressentir. Et à l'inverse, si je suis en train d'écouter du Nepos, est totalement différent. Mon morceau va avoir peut-être des passages beaucoup plus légers et vaporeux. Et je prends la responsabilité d'écrire vraiment les riffs de guitare, les passages de batterie, etc. Et après, c'est derrière. Derrière, c'est en discussion commune qu'on va ajuster les détails, et surtout après on a la phase de pré-production qui va vraiment nous servir à réfléchir, à se dire ok, est-ce que là c'était une bonne idée de mettre un riff de guitare, est-ce que là on laisserait pas juste une nappe de clavier avec la batterie et du chant, est-ce que c'est pas suffisant? Et tout ça, c'est des discussions qu'on va avoir sur chacun des passages et qui va nous permettre de parfaire le morceau. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y a certains morceaux qui ont 3 ans, c'est vraiment ça l'idée, c'est que les morceaux mûrissent au fil du temps. Et peut-être que c'est d'une certaine manière un défaut parce qu'on est hyper perfectionniste et on prend du temps, mais en même temps ces morceaux ont besoin de, enfin nous on a besoin de temps pour mûrir les morceaux et pour finalement être pleinement satisfait derrière de ce qu'on sort, quoi.
D'accord, ok. 11 titres apparaissent sur l'album. Est-ce que vous avez finalisé plus et puis après vous avez retiré ou fait le tri, ou vous n'avez que finalisé ces 11 titres?
Alors forcément, quand on compose, il y a une part de déchet, même si elle n'est pas si élevée que ça. Par rapport aux 11 titres, comme je disais avant, on réfléchit vraiment au concept global de l'album. C'est-à-dire que si cet album avait eu besoin de 15 titres, on en aurait mis 15, et si à l'inverse, il avait besoin de 3, enfin 6 ou 7 titres, on en aurait mis 6 ou 7. On s'est pas dit au départ, on veut 11 titres, il faut qu'on fasse 11 titres, et on se démerde pour avoir 11 titres. Non, vraiment, le but, c'était de faire quelque chose qui soit cohérent dans l'ensemble, que chaque morceau, et ça c'est vraiment le nerf de la guerre pour nous, hein, c'est que chaque morceau ait sa place, chaque morceau ait sa singularité, presque chaque morceau ait son style. Et je reviens beaucoup sur le style parce que même si on se définit comme Def Atmo, on a des morceaux qui sont beaucoup plus black, d'autres qui sont beaucoup plus proches de Septic Flesh. Et vraiment le but, c'est de se mettre aucune limite. Est-ce qu'on veut 11 titres, peu importe finalement. Est-ce que l'album a besoin de 11 titres? En l'occurrence, là, c'était 8, et donc c'est pour ça qu'on s'est arrêté en 11 titres. Et pour être un peu plus transparent là-dessus, on s'est arrêté à 10 titres au départ, et on s'est dit, cet album, il lui faut une outro, il faut conclure, il faut un point d'orgue. Et c'est là que, derrière, j'ai composé le titre Beyond the Pointless Story, qui vient juste conclure avec une pièce au piano, l'album de la meilleure façon qui soit, selon nous, bien sûr.
D'accord. Vous êtes vous-même chargé des différentes prises son avant mastering et mixage?
Alors on a fait le choix de faire du home studio pour la partie recording.
Ouais.
C'était un choix, d'un point de vue pratique, organisationnel et aussi, il faut le dire, financier, parce que sortir un album, ça coûte très cher. Et on s'est senti capable de le faire avec nos compétences. Et au-delà de ça, on a eu une chance immense, c'est que on a été hyper bien accompagnés. Je vais commencer de parler par Cédric Dusseyo, ancien guitariste de Keys and Promises, qui nous a prêté beaucoup de matériel professionnel pour pouvoir nous permettre de faire des prises son aussi bien au niveau des guitares, aussi bien au niveau du chant, de qualité professionnelle. Et en parallèle, on a Gwen qui est agent du Slap Sound Studio, qui s'est occupé de notre mixage, qui malgré le fait qu'il était censé s'occuper uniquement de notre mixage, est allé au-delà et nous a accompagnés pendant toute la partie toute la partie recording avec des conseils, avec des astuces, jusqu'à un simple placement de micro finalement. Tout ça pour qu'au final, notre recording, même s'il était fait en studio, puisse être le plus professionnel possible. Et aussi que derrière, Gwen, lors du mixage, puisse faire le meilleur travail possible. Et c'est ce qui a été fait. Et ça, c'est aussi une chance qu'on a eue, quoi.
Et pour le choix de Bullock pour le mastering?
Alors, pour le mastering, Vesentura du Wishat Studio, c'est avant tout une source d'inspiration pour nous, parce que c'est Trypticon, c'est Dark Fortress. Dans le groupe, on n'a pas énormément de groupes, on est tous d'accord, mais c'est vrai que Dark Fortress, on est tous d'accord. Et on s'est dit, bah ouais, travailler avec Vesentura, c'est génial, et est-ce que ce serait possible? Et on a osé, on a peut-être aussi eu un peu d'audace de toquer à sa porte, et on a eu la chance immense d'avoir un retour positif, et il a été emballé par notre projet, il a voulu travailler avec nous aussi, c'est finalement un choix, parce qu'on sait que c'est un pro, et que sa réputation le précède, et on sait qu'on allait avoir quelque chose de solide avec lui, et en même temps, c'est aussi assez gratifiant de travailler avec quelqu'un dont on est fan depuis des années, quoi.
Ouais, bien sûr. Non, et puis c'est une belle, effectivement, une belle récompense. Là aussi, pour peut-être un peu aller dans le détail du studio, les titres en général, c'est plutôt, enfin les pistes qui apparaissent, c'est plutôt une même prise, ou il y a, tu sais, parfois il y a le côté un peu, c'est un collage de différentes prises, les unes avec les autres. Comment vous avez travaillé cette partie-là?
Alors, au niveau de la partie recording, j'imagine que tu parles
oui,
de la partie recording.
Oui, bien sûr, oui. Pardon.
Alors, clairement, c'est pas fait en une seule prise. D'ailleurs, je sais pas si aujourd'hui, dans le monde du métal, en tout cas pas dans le monde du métal moderne, des groupes arrivent ou ont les capacités ou ont la volonté d'ailleurs de faire du one shot. Le but pour nous, c'était de sortir un album qui soit le plus professionnel, le plus représentatif possible de toutes les années de travail qu'on a derrière. Et il était hors de question pour nous que la phase de recording soit faite en une prise, tout simplement parce que je pense qu'aujourd'hui, aussi bien nous, mais je pense même à des musiciens qui seraient nettement meilleurs que nous, qui seraient exceptionnels, faire du métal en une prise, ça me paraît à la limite de l'impossible, ou alors c'est une volonté de faire des prises en one shot pour créer cet aspect un petit peu live plug and play, quoi, live en studio. Et c'était pas notre but, c'était vraiment de mettre en valeur le plus possible nos chansons. Effectivement, des prises guitare, il y en a eu quelques centaines, des prises chant, il y en a eu quelques centaines, et puis pareil, forcément, il y a des guitares qui sont doublées, il y a des pistes chant où on a des superpositions de quatre pistes chant en simultané, justement pour créer ces effets, cet effet in your face qui finalement est nécessaire à certains moments. Donc la partie recording a été extrêmement étudiée, justement pour servir au mieux les titres, quoi.
Oui, d'accord. Mais c'est vrai que régulièrement, il y a des groupes qui mettent en avant le enregistré en condition du live, et on ne sait jamais trop ce que ça veut dire derrière, quoi. Donc, bon.
Après, nous, ouais, on a effectivement pas pris cette option-là pour, comme dit, pour servir au mieux les titres, quoi.
Autre élément important de l'album. Donc, Vow to Decline, c'est donc le visuel. Là aussi, vous avez tapé fort en réussissant à décrocher un visuel de, alors, je sais pas, je prononce super mal, Costin Kyo Reanu, à The Gate ou Zeptic Flesh. Là aussi, c'est on teste, on essaye et puis on voit si ça marche.
Ah ouais, effectivement, Costin, c'est aussi une grande fierté pour nous. C'est pour toute histoire, en fait, Costin a cette Flash, The Gate, on pourrait citer Ghost aussi, qui est énormissime. Costin, c'est un artiste énorme. C'est l'artwork, c'est aussi le fruit de plusieurs mois, presque 6 mois de réflexion. On a eu beaucoup de mal à se mettre d'accord parce qu'on cherchait vraiment la perle rare. Et comme tu l'as dit, Costin, on le connaît depuis longtemps. On sait ce qu'il fait, on connaît son coup de crayon, et on s'est dit bon bah Costin, qui ne tente rien à rien, on va lui écrire. Et il se trouve qu'il s'est montré hyper ouvert. Malgré le fait qu'on est un groupe de petite envergure, et en fait il s'est montré ouvert, il s'est montré hyper enthousiaste aussi, et ça a été hyper cool, et finalement c'est à la fois une chance et c'est hyper gratifiant d'avoir pu travailler avec quelqu'un comme lui, quoi.
Bah disons que ouais, mais après moi une des questions que je me pose, c'est quand tu vois le visuel final, c'était quoi votre pitch d'origine?
Alors l'avantage de Costin, et c'est aussi pour ça qu'il nous a tous mis d'accord, c'est que Costin, il est à mi-chemin entre quelque chose de entre du dessin très mélancolique, très presque agressif aussi. Quand tu regardes la pochette d'album, on a une certaine agressivité dedans, et en même temps on a un côté abstrait qui est incroyable. Et pour la petite histoire, la petite anecdote, quand il nous a envoyé le tout premier draft, on a chacun, les quatre membres du groupe, on l'a regardé de notre côté, et quand on en a parlé ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait sur ce draft quatre façons de voir les choses totalement différentes. On avait chacun interprété en fait le dessin à notre manière, et on s'est dit, c'est ça qu'il nous faut, c'est exactement ce qu'on essaie de transmettre avec notre musique, et c'est ça en fait qu'on veut, c'est qu'il y ait une cohérence avec notre album. Et qui de mieux que Costine avec ses dessins qui sont hyper hyper communicatifs et en même temps très abstraits pour illustrer ça. Donc c'était le choix a été fait d'une seule voix, quoi.
D'accord. Toujours dans le domaine visuel, vous avez donc en préparation de la sortie officielle dans quelques jours de l'album, vous avez sorti un clip vidéo pour The Ashes of Pain.
Oui, tout à fait, oui.
Tu peux nous parler un peu de cette expérience d'enregistrement de la vidéo?
Alors ça, c'est un gros travail. Déjà, je vais commencer par citer Brice Inker, donc batteur de Smash Hit Combo et qui travaille également dans CHS Prod, qui nous a permis de faire cette vidéo. Le clip, en fait, au départ, ça a été une grosse réflexion entre Gauthier, donc bassiste chanteur du groupe, et moi-même. On a réfléchi à chaque détail, chaque plan, chaque tenue, chaque décor, même jusqu'à la lumière. Et on est arrivé sur place le jour des prises de vue avec toutes les idées en tête. On avait déjà fait quelques réunions en avant avec Brice. Et sur place, Brice, il a été à la hauteur de son expérience. Il nous a accompagnés. Il a su mettre en valeur toutes les idées qu'on avait. Et au final, on a un clip, je dirais, même encore mieux que celui qu'on imaginait, quoi. Donc c'est encore une fois hyper gratifiant de voir que son travail est illustré d'une si belle manière. Et l'exercice en lui-même était vraiment excellent parce que effectivement, des clips, on en fait pas tous les jours. Et nous, on a pris un pied d'enfer à tourner ce clip. C'était vraiment super expérience, quoi.
C'était quoi, une journée de tournage ou plus?
Alors, on a eu 2 jours de tournage plein, une journée et demie pour Ashes of Pain, et il y a quelques surprises qui arrivent encore derrière, mais je vais pas en dire trop non plus, quoi.
Ok, donc il y a d'autres choses dans les tuyaux, ok.
Il y a toujours d'autres choses dans les tuyaux, effectivement.
Donc, élément aussi important, l'album Vow to Decline sort sur un label un peu particulier qui s'appelle Metal East Productions. Pour ceux qui ne sauraient pas, donc c'est une structure associative. Qui vise justement, alors c'était beaucoup à l'origine par les membres du groupe Lorrain de Mémoire Deficiency, qui ont monté leur structure pour essayer justement de donner le pied à l'étrier à eux et à les groupes qui les intéressent. C'était important pour vous comme démarche?
Alors, déjà, c'était hyper cool pour nous que Lorrain vienne nous solliciter parce que Lorrain, via son label métalliste, il a cru en nous, et aujourd'hui un groupe de notre envergure, quel label aurait cru en nous, quel label aurait eu la volonté aussi de nous ajouter dans son roster et derrière de nous accompagner. On s'est dit, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur un gros label ou un label qui est peut-être d'une autre envergure pour être le petit groupe du roster, ou travailler avec Lorrain déjà qu'on connaît humainement, avec qui on a déjà fait des concerts et qui est quelqu'un qu'on apprécie déjà au départ. Et à travers Metalist, on a un accompagnement, et c'est vraiment important ce mot, c'est accompagnement, qu'on n'aurait jamais eu avec un autre label, parce que on a quelqu'un qui croit en notre musique, on a quelqu'un qui croit en la scène locale et la scène surtout, je dirais, du Grand Est de la France, et je pense que cet accompagnement, que ce soit en termes de promotion, en termes de visibilité, en termes de distribution aussi, parce qu'il nous a permis d'accéder à la distribution de Season of Mist, je pense qu'on aurait eu du mal, ou on l'aurait peut-être jamais eu avec un label plus gros, et aujourd'hui on est hyper content de faire partie de ce label, quoi.
D'accord, mais vous aviez quand même démarché avant d'avoir contact avec Metalist, ou ça s'est fait très vite?
Alors en fait, en amont, on avait démarché de manière assez large, je dirais. On avait établi une liste de pas mal de labels, ceux qui nous intéressent, ceux qui nous intéressent moins par rapport à notre style, par rapport à ce qu'ils peuvent nous proposer, en connaissant certains groupes qui sont déjà dedans. Et en fait, on a arrêté cette démarche de recherche et d'études de quel serait le meilleur label pour nous. On a arrêté quand Lorrain nous a proposé de signer avec lui, parce qu'en fait, il allait au-delà de ce que les autres labels pouvaient nous proposer. Donc la décision, elle s'est faite encore une fois d'une seule voix. Elle n'a pas été difficile à prendre parce qu'en fait, Lorrain, il est capable de nous donner ce que nous, aujourd'hui, avec notre envergure, on a besoin, quoi.
D'accord. Donc, depuis l'existence du groupe, vous avez eu l'occasion, comme tu le disais, de tourner en Europe avec parfois donc des grandes pointures américaines ou européennes, en côtoyant des groupes souvent plus expérimentés ou même parfois assez cultes, entre guillemets, vous vous en retirez une expérience, on apprend au contact ou à voir ces groupes travailler?
Forcément, on apprend, et pas forcément dans le jeu, parce que finalement, aujourd'hui, c'est pas un excellent guitariste qui va faire un excellent groupe, c'est pas un excellent batteur qui va faire un excellent groupe, c'est une cohésion, c'est un état d'esprit, et c'est un professionnalisme aussi. C'est vrai que quand on a commencé en 2012 jusqu'à aujourd'hui, on a énormément mûri. Au niveau de notre notre attitude et de notre professionnalisme sur scène ou même de manière générale au niveau du groupe et c'est aussi ça que comment dire qu'on a voulu mettre en avant sur cet album, c'est que c'est un album qui a été fait, on va dire, dans les meilleures conditions pour répondre à un milieu du métal qui est toujours plus exigeant, qui est toujours surchargé, on va dire. Donc oui, pour répondre à ta question, on a appris auprès de ces groupes-là et je pense qu'on apprendra tant qu'on continuera à faire des concerts ou à tourner avec des gros groupes. On apprendra de leur façon de faire, de leurs idées, de leur professionnalisme, quoi.
Je regardais qu'a priori vous aviez joué, alors je sais pas si vous aviez partagé une scène sur un festival ou sur une tournée plus longue avec un genre avec des groupes comme Prong.
Alors, Prong, oui, tout à fait, oui.
Vous avez pu les côtoyer de près ou?
Alors, Prong, on avait, alors c'était, si je me souviens bien, c'était au Grian de Colmar. C'était une soirée qui était géniale. On avait effectivement, on avait nos loges plus ou moins côte à côte. Prong, on est dans le culte là, même si c'est des choses qui s'éloignent un petit peu de ce qu'on fait. Mais effectivement, on a mangé à côté d'eux et puis on a partagé la même scène et c'est même si on n'a pas forcément échangé toute la soirée sur l'expérience scène ou internationale ou autre. C'est toujours à la fois gratifiant, mais c'est toujours inspirant. Je pense que c'est ça le terme le plus intéressant. C'est toujours inspirant d'être sur scène ou avec des groupes comme ça, parce que contrairement à des groupes d'autres envergure, eux, quand ils sont sur scène, et ben ils dégagent quelque chose. Tu sais que ces gars-là, c'est pas leur coup d'essai, et tu sais que ces gars-là, c'est leur job, quoi. Et c'est ça qui est inspirant, quoi.
Oui, puis je me dis, enfin, c'est que ça peut passer peut-être. C'est peut-être effectivement cliché, mais quand on se dit on côtoie des mecs, voilà, comme on disait, Tommy Victor, enfin, qui on aime ou on n'aime pas Prong, ça c'est différent, mais c'est le mec, il a tout fait au niveau métal depuis 30 ans, quoi.
Ah oui, c'est clair, c'est clair. Après c'est aussi, je dirais d'une certaine manière, les mecs comme lui qui ont fait, comme tu l'as dit, 30 ans dans l'univers métal. Ils sont passés par plusieurs groupes. On a la chance parfois de les côtoyer avec des groupes comme Prong ou avec d'autres même. Et effectivement, c'est toujours inspirant, quoi. Mais même à d'autres niveaux, hein, même des groupes qui sont peut-être plus frais, je dirais. Alors je vais citer par exemple ce soir-là, on a joué avec un groupe qui s'appelle Unizer. C'est des Islandais qui sont venus qu'on connaissait pas. Alors, ils font si je me trompe pas, c'était du deathcore ou du post-hardcore. Je sais plus exactement. Je pense que c'était du post-hardcore. C'est pas trop notre style, mais quand on les a vus sur scène. Les gars, ils devaient avoir 5 ans de moins que nous. Ils venaient d'un pays à l'autre bout de l'Europe et ils ont débarqué et ils avaient une cohérence incroyable. Et on s'est dit putain, mais effectivement, même des groupes qui sont plus jeunes, qui sont plus frais, qui sont aussi plus dans la nouvelle vague du métal d'aujourd'hui, ils sont capables d'apporter une singularité qui est incroyable. Et si on en parle aujourd'hui, ou si moi je t'en parle aujourd'hui, c'est que ça m'a marqué et c'est qu'ils ont réussi leur pari rien que pour ça, quoi.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et juste pour terminer, parce qu'on arrive au bout de notre demi-heure, qu'est-ce qui est prévu pour vous dans les tuyaux, à part donc la release party au Grillen à Colmar le 17 octobre?
Donc, release party effectivement au 17 octobre à Colmar avec Deficiency, avec Stormageddon. À part ça, je t'ai parlé avant d'autres petites surprises visuelles. On peut parler de clips ou de séries vidéo qui vont sortir et qui vont être là aussi pour on va dire étayer cette sortie d'album dans les semaines ou dans les mois à venir. Mmh. Après, de manière un peu plus concrète, je te le disais avant, la crise sanitaire nous a pas touché jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui le nerf de la guerre c'est de faire des concerts, c'est de se positionner sur des tournées, c'est des choses comme ça. On aurait aimé de tout cœur pouvoir planifier une tournée en cette fin d'année. Le problème c'est que avec la crise sanitaire, on a soit des assos qui ont mis la clé sous la porte, des salles qui ont fermé, ou alors des choses qui sont saturées, parce qu'effectivement, pendant 2 ans, les groupes n'ont pas pu tourner, tout le monde a reporté, et aujourd'hui, le booking est totalement saturé. Donc, l'objectif, c'est les concerts. L'objectif, c'est une tournée en 2022. Alors, pour l'instant, on n'a rien de concret, mais c'est vraiment le cheval de bataille. Et pour l'instant, de très concret, à part ces supports vidéo qui devraient arriver prochainement, on a effectivement la release party 17 octobre. On aura aussi un concert au Locomotive de Mulhouse. Onuma trouve donc sur la scène Locomotive de Mulhouse le 18 décembre. Mmh. Et après, c'est le travail de toute l'équipe là, c'est de plancher autant que possible pour se joindre à une tournée française, voire européenne, ce qu'on vise, pour le printemps 2022, quoi.
Question idiote, mais je la pose quand même. Vous travaillez le marché allemand?
Excuse-moi, j'ai pas compris ce que t'as dit.
Vous travaillez au niveau booking le marché allemand?
Alors, on travaille avec les contacts qu'on a. Directement avec le marché allemand, on a quelques contacts, notamment à la frontière franco-allemande. Donc, on travaille surtout avec les connaissances qu'on a en France. Je vais citer notamment l'association Headbang qui est à Colmar, où on a Matt qui dirige cette association, et Matt qui nous aide une grande aide aussi, qui nous donne des contacts et qui essaye aussi lui de nous pousser et de nous accompagner autant que possible. Et c'est plutôt à travers des gens comme lui. Je peux reciter aussi Gwen Carjean qui a fait notre message. C'est à travers des gens comme lui qu'on arrive à avoir des contacts et qu'on arrive à avoir des pistes qui pour l'instant sont pas forcément toujours concluantes, mais qui nous permettent d'avoir des pistes de départ pour une potentielle tournée, quoi.
Ok, bah écoute, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite, le meilleur. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre.
Et puis, merci à toi.
Et puis tous nos vœux pour la suite. Et puis donc rendez-vous pour ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas d'ailleurs non plus le 17 à Colmar au Grillen.
Bah, avec grand plaisir, merci à toi pour ton temps, merci pour ton interview. Et comme dit, tous ceux qui peuvent, bah, le 17 octobre, et ceux qui malheureusement peuvent pas, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Spotify, sur Deezer. À la sortie de l'album, il y aura tout, le 8 octobre, il y aura tout l'album sur Deezer. Donc n'hésitez pas à nous découvrir, et puis voilà, quoi.
Ça marche, le message est passé. À bientôt, ciao.
Merci, à bientôt, ciao.